Chapitre 17. Quelques jours avant le début des contrôles de fin d'année, Hélène Docherty me convoqua dans son bureau. Après avoir refermé la porte, elle m'annonça « Je suis désolé pour les ennuis que je vous ai occasionnés, George, mais si c'était à refaire, je ne suis pas certaine que j'agirais différemment. » Je n'ai rien dit. Ma colère était retombée, mais j'étais encore sous le choc. J'avais très peu dormi depuis la crise, et j'avais dans l'idée que mes relations intimes avec les 4 heures du matin n'allaient pas s'achever de sitôt. « Article 25 du Code de l'administration scolaire du Texas », me dit-elle, comme si cela expliquait tout. « Je vous demande pardon, Ellie ?»« C'est Nina Wallingford qui a porté le fait à mon attention. » Nina était l'infirmière du district. Elle parcourait des dizaines de milliers de kilomètres chaque année au volant de son break Ford Ranch pour faire le tour des 8 groupes scolaires du comté de Denholm, dont 3 étaient encore des classes uniques. L'article 25 concerne la législation sur la vaccination dans les écoles d'État. Il couvre les enseignants aussi bien que les élèves, et Nina m'a fait remarquer qu'elle n'avait aucun carnet de vaccination à votre nom. Aucun dossier médical de quelque nature que ce soit, en fait. Et voilà. L'imposteur démasqué pour défaut de rappel polio. Au moins là, c'était pas à cause de ma connaissance anticipée des Rolling Stones, ni mon utilisation déplacée de l'argot hip-hop et disco. Vous étiez si occupé par le Jamboree que j'ai pris les devants et écrit personnellement au lycée où vous aviez enseigné pour vous épargner cette peine. La réponse de Floride m'a indiqué qu'il n'exigeait pas de carnet de vaccination pour les remplaçants. Quant aux réponses du Maine et du Wisconsin, ce fut inconnu au bataillon. Elle se pencha en avant par-dessus son bureau, le regard rivé sur moi. Je n'ai pas pu le soutenir bien longtemps, car ce que j'y ai lu, avant de baisser les yeux vers mes mains, ce fut une insupportable mansuétude. Le conseil d'administration du lycée serait-il choqué d'apprendre que nous avons engagé un imposteur? Certainement. Il pourrait même intenter une action en justice pour récupérer vos salaires de l'année. En suis-je choqué? Certainement pas. Votre travail au lycée de Denholm a été exemplaire. Ce que Sadie et vous avez fait pour Bobby Jill Alnut a été absolument merveilleux. Le genre de choses qui pourrait vous valoir une nomination au titre de professeur de l'année de l'État. « Merci », ai-je murmuré. Je me suis demandé ce que Mimi Corcoran aurait fait. Et la réponse de Mims a été la suivante. S'il avait signé un contrat pour enseigner l'an prochain et l'année suivante, vous seriez contrainte d'agir. Mais comme il s'en va dans un mois, il est en fait dans votre intérêt et dans celui du lycée de ne rien dire. Puis elle a ajouté « Mais il y a une personne qui a le droit de savoir qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. » Ellie se tut. « J'ai affirmé à Sadie que j'étais sûre que vous auriez une explication raisonnable à lui donner, mais il semble que vous n'en ayez aucune. » J'ai consulté ma montre. « Si vous ne me virez pas, Miss Ellie, j'aimerais retourner à ma 5e heure de cours. Nous faisons de l'analyse de phrases aujourd'hui. Je pense leur proposer un syntagme complexe du genre « Je suis irréprochable dans cette affaire, mais incapable de dire pourquoi. » Qu'en dites-vous? Trop difficile? Trop difficile pour moi, certainement, rétorqua-t-elle plaisamment. Autre chose, ai-je ajouté plus sérieusement. Sadie a eu une relation conjugale compliquée. Son mari avait des pratiques étranges sur lesquelles je ne souhaite pas épiloguer. Il s'appelle John Clayton. Je pense qu'il pourrait être dangereux. Il faut que vous demandiez à Sadie si elle a une photo de lui à vous montrer pour que vous sachiez à quoi il ressemble au cas où il débarquerait et commencerait à poser des questions. Et qu'est-ce qui vous fait penser cela? Disons que j'ai déjà vu une telle chose se produire par le passé. « Est-ce que cela vous va ?»« Je suppose que cela devra, n'est-ce pas ?» Cette réponse ne me satisfait pas. Voudrez-vous le lui demander, s'il vous plaît ?
Oui, George, je le ferai.
Peut-être qu'elle était sincère. Ou peut-être que c'était simplement pour donner le change. Impossible de le savoir. J'étais à la porte quand elle a dit, comme si elle ne faisait qu'échanger des nouvelles du temps, « Vous brisez le cœur de cette jeune femme ?»«
Je sais, » j'ai dit. Et je suis sorti.
Mercedes Street, fin mai.
Alors comme ça, vous êtes soudeur.
J'étais debout sur les marches du 2706 en compagnie du propriétaire, un Américain raffiné du nom de Mr. J. Baker. Il était trapu, avec un bide énorme qu'il appelait son garage à Shiner. Très raffiné, vous dis-je. Nous venions de terminer une rapide tournée des lieux, dont Baker m'avait expliqué qu'ils étaient à une giclée de chic de l'arrêt de bus, comme si ça compensait les plafonds bombés, les murs tachés d'humidité, la cuvette des WC fêlés et l'aspect de décrépitude générale.
« Veilleur de nuit, » j'ai dit. « Ah ouais ? Beau boulot, ça ! Plein de temps pour enculer les mouches avec un travail comme celui-là. »
La remarque ne semblait pas appeler de réponse.
« Pas de femme ni de gosse. »
« Divorcé. Ils sont sur la côte Est. »
« Pension élémentaire, vous leur versez ?»
J'ai répondu d'un haussement d'épaule. Il n'a pas insisté.
« Alors, vous voulez la baraque, Amberson ?»«
Je crois bien que oui, » j'ai dit. Et j'ai soupiré. Il a tiré de sa poche arrière un long carnet de quittances de loyer dans un étui en cuir souple.
« Premier mois, dernier mois, caution. »«
Caution ? Mais vous rigolez !»
Baker a poursuivi comme s'il ne m'avait pas entendu.
« Le loyer est dû le dernier vendredi du mois. Défaut de paiement ou paiement en retard, et vous êtes à la rue. Service gratuit de la police de Fort Worth. Ces gars-là et moi, on est copains comme cochons. »
Il a sorti de sa poche de poitrine le mégot carbonisé de son cigare, s'est collé le bout mâchonné dans la clape, a gratté une allumette sur l'ongle du pouce et l'a allumé. Il faisait chaud sur les marches. J'ai eu comme l'intuition que ça allait être un été long et étouffant. J'ai soupiré de nouveau. Puis, avec une réticence ostensible, j'ai sorti mon portefeuille et commencé à y prélever des billets de 20 dollars.
« In God we trust !»
j'ai déclaré. « Tous les autres payent comptant !» Il a ri en soufflant d'âcres nuages de fumée bleue.
« Ah, celle-là, elle est bien bonne, je m'en souviendrai. Surtout le dernier vendredi du mois. »
Après la jolie petite maison que j'avais habitée plus au sud et où j'avais eu la fierté d'entretenir une vraie pelouse bien tondue, je ne pouvais pas croire que j'allais vivre dans cette bicoque désolée au milieu de cette rue désolée. Même si je n'avais pas encore quitté Jody, j'ai ressenti une sacrée vague de nostalgie. « Donnez-moi un reçu, s'il vous plaît, » je lui ai dit. « Ça, au moins, c'était gratuit. » C'était le dernier jour de classe. Les salles de cours et les couloirs étaient déserts. Les ventilateurs de plafond brassaient l'air déjà très chaud alors que nous n'étions que le 8 juin. La famille Oswald avait quitté la Russie. Dans 5 jours, selon les notes de Hal Templeton, le SS Masdam accosterait à Hoboken, où il descendrait par la passerelle pour fouler le sol des États-Unis d'Amérique. À l'exception de Danny Laverty, la salle des professeurs était déserte.
« Hé, champion ! Paraît que tu pars t'installer à Dallas pour terminer ton bouquin ?»«
Ouais, c'est ça le plan. » En fait, c'était Fort Worth le plan, du moins au début. J'ai commencé à nettoyer mon casier qui était bourré de mémos de fin d'année.
Si j'étais libre comme l'air et pas pieds et poings liés à une femme, 3 rase-moquettes et un prêt hypothécaire, je m'essaierais bien à écrire un livre moi aussi, m'a fait Danny. J'ai fait la guerre, tu sais.
Je savais. Tout le monde le savait, généralement dans les 10 minutes suivant sa rencontre.
T'en as mis assez de côté pour vivre ?
Ça devrait aller. J'en avais plus qu'assez pour tenir le coup jusqu'au mois d'avril suivant, où je prévoyais de conclure mon affaire avec Lee Oswald.
Je n'aurai pas besoin de faire d'expédition supplémentaire chez Faith Financial dans Greenville Avenue. J'avais été foutrement stupide de m'y rendre ne serait-ce qu'une seule fois. Même si je cherchais à me convaincre que l'incendie de ma maison de Floride était une mauvaise blague qui avait mal tourné. Tout comme j'avais cherché à me convaincre que tout allait bien entre Sadie et moi, et voyez où ça m'avait mené. J'ai balancé le tas de paperasse sans le regarder directement de mon casier dans la poubelle et aperçu du coin de l'œil une petite enveloppe cachetée. Je savais qui utilisait ces enveloppes-là. Le feuillet à l'intérieur ne comportait ni formule de salutation ni signature, et excepté le faible et quand même illusoire écho de son parfum. Le message était bref. Je te remercie de m'avoir montré combien les choses peuvent être bonnes. S'il te plaît, ne passe pas me dire au revoir. Je l'ai gardé en main pendant une minute, tout en réfléchissant, puis je l'ai glissé dans ma poche arrière et je suis parti à grands pas vers la bibliothèque. Je ne sais pas ce que j'avais l'intention de faire, ni ce que je comptais lui dire, mais tout ça n'eut finalement aucune importance puisque la bibliothèque était plongée dans l'obscurité, chaises rangées sur les tables. J'ai quand même essayé de faire tourner la poignée, mais la porte était verrouillée. Les deux seules voitures restantes au fond du parking réservé au professeur étaient la berline Plymouth de Danny Laverty et ma Ford, à la capote de toile plutôt miteuse à présent. Je pouvais compatir. Je me sentais plutôt miteux, moi aussi.
Monsieur A ! Attendez, Monsieur A !
C'était Mike et Bobby Jill accourant vers moi sur le macadam brûlant du parking. Mike portait un petit paquet enveloppé de papier cadeau qu'il me tendit.
« Moi et Bobby, on vous a acheté quelque chose. »«
Bobby et moi ?»«
Et vous n'auriez pas dû, Mike. »«
On devait le faire, monsieur. »
Je fus ému de voir que Bobby Jill pleurait et heureux de voir que l'épaisse couche de Max Factor avait disparu de son visage. Maintenant qu'elle savait que les jours de la vilaine cicatrice qui la défigurait étaient comptés, elle avait cessé de vouloir la dissimuler sous une tonne de fond de teint. Elle me fit une bise sur la joue.
« Merci, 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 monsieur Amberson. Je vous oublierai jamais. »
Elle regarda Mike.
« Nous ne vous oublierons jamais. »
Et c'était probablement la vérité.
C'était bien.
Ça ne compensait pas la bibliothèque fermée et obscure, mais oui, c'était très bien.
« Ouvrez-le !»
dit Mike.
« Nous espérons qu'il vous plaira. C'est pour votre livre. »
J'ai défait le paquet. Sous le papier apparut un écrin en bois d'environ 18 cm de long sur 5 de large. À l'intérieur, niché dans de la soie, il y avait un stylo-plume Waterman portant gravé sur le clip les initiales G.A.
« Oh, Mike !» j'ai dit. « C'est trop !»« Non, ce serait pas suffisant même s'il était en or massif !»
me répondit le garçon.
« Vous avez changé ma vie !»
Il regarda Bobby.
« Notre vie à tous les deux !»«
Mike !» je lui dis. « Ce fut un plaisir !» Il m'étreignit. Et en 1962, ça n'a rien d'un geste banal entre hommes. Je l'ai moi aussi étreint avec gratitude.
« Vous resterez en contact !»
m'assura Bobby Jill.
« Dallas est pas loin !»
Elle se reprit.
« N'est pas loin !»«
Oui, bien sûr !» lui ai-je dit. Mais je savais que je ne le ferais pas. Et eux non plus, probablement. Ils prenaient leur départ dans la vie. Et s'ils avaient de la chance, la vie leur sourirait. Il commençait à s'éloigner quand Bobby se retourna.
« C'est dommage que vous soyez plus ensemble tous les deux. Ça me rend vraiment triste. »
« Moi aussi, ça me rend très triste, » je lui ai dit. « Mais c'est probablement pour le mieux. » Et je suis rentré chez moi pour emballer ma machine à écrire et mes autres biens terrestres, encore assez peu nombreux, pensais-je, pour tenir dans une valise et quelques cartons. Au seul feu de la rue principale, j'ai ouvert l'écrin et regardé le stylo-plume. C'était un très bel objet et j'étais très touché qu'il me l'ait offert. J'étais encore plus touché qu'il m'ait attendu pour me dire au revoir. Le feu est passé au vert. J'ai refermé d'un petit coup sec l'écrin du Waterman et j'ai redémarré. J'avais une boule dans la gorge, mais les yeux secs.